I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut pour cette dernière de l'année. Aux commandes, Sébastien Petit qui va enregistrer l'émission. Arnaud Beurdelet a pris des vacances bien méritées, c'est pourquoi je serai seul aux manettes. Je vous rappelle bien sûr que Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Je reprends un peu le monologue de Arnaud Beurdelet, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou ailleurs. Je vous rappelle aussi que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, pardon. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles au podcast. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Allez, c'est parti pour la présentation de notre invité. On aimerait tous connaître une fin de saison avec un ultime match devant son public, porté en triomphe par ses frères, et je ne vous parlerai que de ceux que j'ai connus. Moi, Diego Dominguez, assis sur le bouclier, faisant un tour d'honneur au Stade de France. Jérôme Fiol, Pierre Rabadan, achevant une carrière bien remplie avec le bout de bois en guise de paraphe. Hervé Chaffardon, qui après 20 ans de carrière, la termine avec l'équipe junior. Bref, il y a ceux qui font de belles carrières et qui tournent la page d'une adolescence prolongée jusqu'à 35 ans. Et puis, sur ce chemin compliqué et enivrant, il y a ceux qui s'arrêtent avant, pour cause de blessure ou parce que le destin en a décidé autrement. Kevin Gourdon vient de nous annoncer, de la meilleure des manières, je dirais, ces derniers jours, qu'il a été obligé d'arrêter de sa carrière pour raison médicale. Et c'est avec le sourire qu'il s'est retrouvé un micro dans une main, la main de son fils dans l'autre, au beau milieu de l'un des plus beaux publics de France, à La Rochelle, pour rendre hommage à son public et ses coéquipiers. Je sais pas pour vous, mais pour moi, Kevin, c'est la classe. C'est un type intemporel, un style de jeu particulier. C'est une gueule à la Clint Eastwood et une carrière bien remplie. Formé à La Voulte, puis Toulon, puis Clermont, Kevin, c'est 9 ans de fidélité, un troisième ligne complet, toujours porté sur l'attaque, un style particulier à mes yeux, un type serein, catapulté dans un sport en manque de ce genre de personnalité. Il y avait, oui, je sais, ça fait bizarre de parler au passé, il y avait chez ce mec un flegme particulier, autant en équipe de France qu'avec le Stade Rochelet. C'en était d'ailleurs devenu un papa, et perso, je l'aurais bien vu de retour en équipe de France et encore une bonne dizaine d'années à fouler les terrains de top 14. Et maintenant, et demain, j'ai comme l'impression que tout se passera bien pour lui, même si on connaît la complexité de l'après. Perso, je l'imagine bien sur un canasson, face caméra, à scruter l'horizon, confiant à la Lucky Luke, prêt à en découdre et à affronter ce nouveau challenge. Alors merci Kevin d'être dans Poulain Rafut et bien sûr, bienvenue. Salut.
Salut, merci pour l'invite.
Ouais, écoute, j'essaye d'avoir des petites touches un peu légères dans un moment qui doit être un peu compliqué. Alors, comme tu le sais, on va partager à la fois ton parcours, parler de l'équipe de France, de La Rochelle, mais surtout, moi, ma première question qui vient, sachant que, bon, comme on en a discuté en off tout à l'heure, tu connais, t'as entendu parler, moi, surtout sur l'après-rugby. Je sais la complexité que ça peut être de passer de l'autre côté. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Comment ça va après cette annonce la semaine dernière?
Ah bah ça va plutôt bien. C'est vrai que les derniers jours ont été bien remplis. Il a fallu réfléchir à pas mal de choses un petit peu en avance, mais finalement tout s'est très bien passé. Donc je suis très heureux de pouvoir avoir pu parler un peu au public du Stade Rochelet, même si j'ai eu que très peu de temps, même s'il y avait la tempête, parce que c'est un public qui mérite tout ce que j'ai dit hier. Ils ont été incroyables pendant ces 9 saisons. Donc je me devais de leur dire quelques mots.
Ouais, c'était un moment vachement particulier. Enfin, comment toi, tu as appris la nouvelle? Comment ça s'est passé? C'est venu d'un coup? C'était latent? C'est arrivé comment cette annonce justement de ce problème, un problème cardiaque que tu as eu justement? Que
ouais, on est super suivi, tu sais que on est super suivi. Et du coup, en début de saison, j'avais fait un examen et les résultats n'étaient pas spécialement bons. Du coup, j'ai repassé un examen à Paris et là, les examens étaient vraiment pas bons du tout.
D'accord. Donc c'est quoi? C'était une anomalie parce que c'est quelque chose que tu avais déjà depuis longtemps, ou ça a été une douleur ou quelque chose en particulier?
Non, pas du tout. C'était un souci sur l'aorte et là qui me permet plus de faire les efforts intenses. Donc rugbyman professionnel, c'est assez compliqué. Heureusement, je pense que j'étais pas vraiment un foudre de guerre à l'entraînement parce que non, j'aurais pu peut-être arrêter plus tôt. Donc non, pour l'instant, non, ma santé est bonne. J'ai juste des restrictions par rapport au sport.
Tu ressentais sur le terrain, t'avais des...
Non, absolument pas. Il y a pas de symptômes, il n'y a rien du tout. Je suis quelqu'un de normal et je peux faire exactement tout ce que peut faire une personne normale, sauf du sport à haute intensité, c'est tout. Ce qui reste assez contraignant pour un sportif, mais voilà.
Comment tu l'as vécu? Et moi, j'ai la question que je me pose, alors ça peut paraître très intime, tu as le droit de ne pas y répondre, mais comment on annonce ça à sa femme? Parce que là, on n'est pas dans « chérie, j'ai perdu mon taf » ou j'ai été licencié. Je me permets de te poser la question parce qu'une carrière de rugbyman, voilà, pour qu'elle se passe bien, je pense qu'il est important à la fois d'être accompagné à la fois sur le plan professionnel, mais sur le plan intime aussi, c'est important d'être accompagné par son mec ou par sa nana avant, pendant et après. Donc, comment tu as pu l'annoncer comment ça s'est passé?
Ça s'est passé pas très bien, forcément. Ouais. Non, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément, mais du moment que j'ai fait les premiers examens, qui n'étaient pas spécialement bons, elle a été tout de suite au courant. Donc, petit à petit, on s'est mis dans l'hypothèse que ça pouvait arriver. Donc, c'était beaucoup plus facile à digérer jusqu'à l'annonce vraiment formelle du cardiologue. Donc, on était plus ou moins préparés. Après, être préparé et bien s'en sortir, c'est deux choses différentes. Mais je pense qu'on a plutôt bien géré ça tous les deux.
D'accord. Et le club, alors, pareil, il a appris en même temps que toi, et même tes coéquipiers, comment ils ont réagi? Parce que j'ai une pensée pour Romain Stasi, tu vois, que j'en avais reçu l'année dernière, qui est un super mec. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a balancé ton numéro, on le remercie. Et tes potes aussi, tes coéquipiers, comment ils réagissent à ça? Parce que je l'ai dit dans le portrait, leader du groupe, quand même, un peu le papa du groupe depuis 9 ans, tu as tout connu à La Rochelle. Et on va parler après de La Rochelle, mais comment ils l'ont vécu aussi, cette annonce-là?
Ils ont été tristes. Ouais. Tout le monde a été plutôt triste, à l'inverse un peu de moi. J'étais encore un peu décalé par rapport à ça. Mais ça m'a fait beaucoup de peine que les gens soient tristes d'apprendre ma fin de carrière et le fait que je ne pouvais pas continuer. Mais après, voilà, c'est des coups du destin. Il n'y a rien que j'aurais pu faire pour que l'issue soit différente. Donc, à partir de ce principe-là, il n'y avait pas spécialement de regrets ou de peine à avoir, même si c'est toujours triste. Je pense que j'en ai quand même bien profité. On parle de 9 saisons à La Rochelle, mais il y avait toutes celles d'avant qui n'étaient pas spécialement professionnelles, mais qui ont fait partie de ma carrière de rugby et qui étaient géniales aussi. Donc, je pense que c'était une grosse, grosse partie de ma vie. Elle s'arrête tout petit peu plus tôt que prévu parce que j'avais re-signé 2 ans. Mm-hmm. Mais j'en suis très content et c'est pour ça que j'ai pas spécialement... Ça m'a fait un peu... C'était assez paradoxal que tout le monde soit un peu triste à ma place, alors que moi, je n'étais pas forcément... J'étais un peu moins touché que le reste des gens, alors que ça me concerne moi.
Ouais, mais après, c'est aussi... tu parles de tristesse aussi de tes potes. En fait, c'est aussi de voir l'impact que tu as eu...
Exactement, les gens étaient vraiment tristes que j'arrête, ça leur faisait vraiment de la peine. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, c'est des coups du destin. Il y a des choses qui sont bien pires dans la vie. Je pense qu'il faut savoir le prendre avec philosophie. Je suis en bonne santé, je vais pouvoir jouer avec mes enfants, je vais pouvoir avoir une vie normale. C'est juste mon métier qui s'arrête, entre guillemets.
Ouais,
même si c'est un très beau métier. Oui,
c'est le métier qui fait rêver. Et en off, juste avant, et c'est vrai que ce n'était pas une question que je voulais te poser, mais. Et ça m'a fait penser à moi, d'ailleurs, il y a mes débuts aussi dans le rugby. Moi, je n'étais pas passionné, je dirais, par ce sport. Je n'avais jamais rêvé de faire carrière dans ce sport. Donc, tu le prends aussi avec philosophie. C'était une opportunité pour toi, en fait, de traverser, je parle toujours de fin d'adolescence, mais une adolescence qui est un peu prolongée dans un sport très professionnel, certes, mais qui reste un jeu. Donc, ce que je dis dans le portrait aussi, il y a toujours c'est un petit peu ce décalage de l'image qu'on peut avoir aussi de toi, du flegme, d'un détachement qui n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, parce que des personnalités comme toi, il en faut. Mais tu vois, un détachement par rapport à ce sport et puis toujours une notion de plaisir. Je me souviens de ton visage en équipe de France. Bon, tu as traversé, on va en parler aussi de l'équipe de France, traverser le no man's land qui n'est pas obligatoirement que de la responsabilité des joueurs, bien entendu, ou de Philippe ou de Jacques Brunel et tout ça. Mais voilà, moi, parler de ta personnalité, c'est quand même un sport qui fait rêver aujourd'hui. Et tu as ce détachement. Alors, il te vient d'où, comme tu le disais, peut-être le fait que tu ne sois pas passionné ou que tu ne rêvais pas de faire carrière?
Oui, moi, il y a beaucoup de choses que j'adore dans le rugby, mais il y en a aussi beaucoup que je déteste. Les gens qui sont vraiment passionnés, ils sont passionnés dans la totalité de ce qu'ils aiment. Et moi, ce n'était pas le cas avec le rugby. C'est pour ça que j'ai eu du mal avec mes entraîneurs parfois. C'est pour ça que j'avais aussi ce détachement de ce milieu-là pour moi. Et surtout quand les années elles sont passées, c'était un travail. Ça restait un travail. Et je comprenais pas, c'est un grand mot, mais j'avais un peu de mal à ce que les gens ne comprennent pas que ça restait un travail et que parfois, des fois, on en a marre. de son boulot, comme tout un chacun. Et c'est vrai que ça a été pas facile à faire comprendre aux gens, tout ça, cet aspect-là. Parce que tout le monde l'idéalise, ce métier, on voit que les bons côtés, mais il y en a aussi des moins bons.
Mais tu vois, que tu prennes la parole comme ça, c'est hyper intéressant. En plus, tu as la stature et t'as quand même connu le rugby pro et tu le connais encore. C'est Winnie Antonio qui disait, en fait, t'as beau, ouais, ok, tu fais 30, tu fais 45 matchs dans l'année, mais il y a un moment, tu as le droit d'être fatigué, quoi. Tu as juste le droit de dire, et c'est pas de te plaindre, en fait, parce que tu touches 10, 15, 20, 30, 50, peu importe. Mais c'est parce que c'est cette notion d'argent qui dirait qu'en fait, tu n'aurais pas le droit de te plaindre, que ça doit rester un plaisir, que ça doit rester un jeu, que tout est beau, que tout est rose et tout ça. Or non, il y a des moments où, en fait, ça peut être gonflant. C'est Kaiser Benjamin qui disait, en fait, on n'a pas le temps de profiter de la victoire du week-end, qu'il faut déjà penser au match d'après. Et cette notion de temps, elle est complètement altérée. Et c'est vrai que les spectateurs passionnés ne s'en rendent pas compte. Tu as une vie de famille à côté. Il faut que tu penses parfois au double projet. Et puis, si tu n'es pas passionné par ça, comme toi, qui ne regarde pas les matchs le week-end, tu as d'autres centres d'intérêt. Donc, c'est tout ça. Il faut arriver à jongler. Une carrière de rugbyman, c'est particulier. Hein.
Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire à mes côtés qui m'a permis d'être performant dans mon travail. Parce que être performant dans son travail, et notamment au rugby, c'est compliqué, surtout quand on a des enfants. Moi, les miens, ils n'ont vraiment pas dormi, mais pas dormi. Donc, ma femme s'en est énormément occupée pour que je puisse être performant sur le terrain. Et c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et des sacrifices de sa part. Et c'est vrai que c'est un peu le côté pas sombre de la vie de sportif de haut niveau, mais c'est un côté qui est, je pense, pas assez valorisé.
Mais derrière chaque grand homme, hein?
Cache une femme,
bien entendu. Ouais, grave. Mais dans la mythologie, c'est notre part féminine. Parce que si tu commences à envoyer trop de fleurs aussi, après derrière, ça s'enflamme aussi. Mais comme nous, hein, j'en rigole. Mais c'est vrai que la vie de rugbyman, moi, je l'ai vécu et j'étais célibataire. Ma femme a pris toute la précarrière en pleine tronche et chapeau de leur rendre hommage. Et je le dis là et je lui dis aussi en face. Quand elle gère les gosses, quand tu as un métier qui est comme le tien, tu vois, où le week-end tu pars, la semaine tu as des entraînements, tu as la fatigue aussi, il faut que tu puisses récupérer du week-end quand les gamins. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a cette notion aussi, c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question par rapport à ta femme, c'est que pendant, déjà, elles font un énorme boulot, et aussi sur l'après, parce que tu as la personnalité, et tu le remarqueras, et je te le dis, je suis en train de monter, je t'en parlais en off, on monte une association de soutien psychologique aux sportifs en fin de carrière, parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment, et t'en es un exemple. Mais sur l'après, tu as la notion d'émotion, la notion du corps qui change, le mental qui change, et puis la vie aussi professionnelle aussi qui change, avec les salaires qui baissent aussi, il faut pouvoir s'adapter. Ça, les gens ne s'en rendent pas obligatoirement compte. Et c'est vrai que quand on a la chance comme toi justement d'être bien accompagné, ça permet une transition, et c'est une étude qui avait été faite par Proval, la transition est peut-être un petit peu plus facile, moins compliquée, on va dire, quand on est en couple. Donc, c'est vrai que on rend hommage, en tout cas, à nos femmes, et je le rends aussi, d'ailleurs, moi aussi, à la mienne. Et je voulais te poser une question. Vu que ça vient de t'arriver, tu avais fait un CAP maçon, c'est ça, si je ne m'abuse?
Quand j'étais à Clermont, j'ai fait un... Loan, d'ailleurs, l'avait balancé, j'ai fait un bac pro élevage canin et félin.
D'accord.
Pendant 2 ans. C'était très intéressant, mais c'est pas vers ça que je vais me retourner. Et après, quand j'en avais eu un peu marre du rugby, il y a 2 ans ou 3 ans, je m'en rappelle plus, il y a 2 ans, je voulais faire autre chose un peu pour me changer les idées. J'avais commencé un CAP maçonnerie.
D'accord.
Pareil, hyper intéressant, parce que j'étais parti du principe que on faisait construire avec ma compagne, et j'étais parti du principe que je ne savais même pas monter un mur, genre juste un mur, quoi, poser 3 briques, et je suis parti de cette idée-là. Et de me dire, pourquoi pas essayer d'en savoir un peu plus sur ça. Et finalement, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Même si c'était hyper compliqué d'allier les deux avec le rugby. Mais ça m'a fait une bonne bouffée d'oxygène quand ça allait pas trop. Et une fois que c'est passé, j'ai malheureusement réenchaîné les matchs, etc. Et c'était plus possible de faire ça.
Ouais, moi, je me souviens, pendant ma carrière, je prenais des cours de théâtre. Et ça choquait tout le monde. Fabien Galtier en tête qui me dit, on pense à plaquer ce week-end sur le terrain, on pense pas au théâtre et au cinéma. Et en fait, c'est cette soupape, en fait. Une fois de plus, quand tu n'es pas, je dirais pas passionné, mais quand tu as besoin d'avoir quelque chose aussi à côté, toi, c'est un grand écart quand même, parce que entre l'élevage canin d'un côté et la maçonnerie de l'autre, moi, je n'ai pas planté un clou, donc je suis assez admiratif. Mais c'est vrai que c'est aux antipodes du rêve aussi, de ce que peuvent imaginer les rugbymen en fin de carrière, pour en avoir discuté avec quelques-uns. Alors, moi, je suis consultant depuis 8 ans sur Eurosport, je fais des conférences aussi à côté, mais beaucoup de sportifs s'imaginent dans un métier d'entraîneur, dans un métier de consultant. Or, c'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai, vrai travail. Toi, tu t'imagines sur quoi, sur l'après? Le métier d'entraîneur, on en discutait en off tout à l'heure aussi, c'est pas trop ce qui t'anime en ce moment, même si tu vas nous expliquer là, cette fin de saison. Tu me l'avais dit.
Dans ma tête, pour l'instant, non, le projet, c'est pas de devenir entraîneur, parce que je trouve que qu'une fois qu'on a fini cette partie-là du rugby qui est hyper prenante, repartir sur une partie qui sera encore plus prenante, je pense, parce que je pense qu'entraîneur, c'est dur. Les horaires sont compliqués, elles sont les mêmes que celles d'un sportif, voire pire. La pression, elle est également là. Donc, sortir de tout ça pour m'y remettre, non. Et je ne sais pas, vis-à-vis d'entraîner un groupe en entier, je trouve ça compliqué à l'heure actuelle, mais ce que j'avais pensé et ce qui était ressorti, comme je t'avais dit, en off de mon bilan de compétences, c'était la transmission, et c'est ce que je vais faire avec le groupe du Stade Rochelet jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir rester avec eux. Bah, parce qu'à l'heure actuelle, vu que je ne peux pas vraiment m'entraîner, venir au stade pour rien faire, ce serait un peu bizarre. Donc, on a décidé avec le coach et la direction si je pouvais être en gros un peu consultant sur tout ce qui est phase d'attaque, donc attitude de contact, lecture de jeu, prise d'information, etc. Pour travailler avec le groupe sur ceux qui veulent s'améliorer dans ce secteur-là.
D'accord, et donc l'après, tu réfléchiras au mois de juin un
Après,
petit
si
peu
ça
selon
fonctionne
la. Ouais.
bien, si ça fonctionne bien avec La Rochelle et si moi je prends du plaisir là-dedans, peut-être que je prolongerai, oui, après la fin de saison.
Ok, attends, mais justement, on va parler un peu de rugby quand même. Vous restez, enfin, La Rochelle restait quand même sur une saison assez extraordinaire. Et depuis 9 ans, tu as traversé un peu toutes les étapes de La Rochelle pour en arriver l'année dernière à ces deux finales malheureusement perdues. Moi, la question que je me posais, c'est, mais je me la suis posée dès le début de l'année, comment on repart après deux finales perdues? Parce que moi, j'arrête en fait. En 2005, finale de championnat perdue contre Biarritz, finale de Coupe d'Europe contre Toulouse, pardon, perdue. Et j'arrête à ce moment-là. Donc, je ne sais pas comment après on peut repartir, comment on se remotive, comment on repart justement sur de nouveaux challenges pour La Rochelle. Comment ça s'est passé un peu ce début de saison?
Je pense que c'est plus facile de redémarrer quand tu as perdu que quand tu as gagné. Après, je n'ai pas connu l'autre hypothèse, donc je ne peux pas vraiment dire.
Alors, tu as connu La
Mais une
Rochelle et
fois.
le port de La Rochelle, tu l'as connu plein aussi. Donc, tu as
Oui,
connu
ça
des.
c'est oui, ça c'est vrai. Ça, j'ai beaucoup pensé avant les finales. Hein. J'avais qu'une envie, c'était revu ça, mais ça n'a pas été le cas. Non, c'était plus facile que prévu. Après, je pense que le premier match à domicile nous a fait mal à la tête, alors qu'on jouait bien. Je pense que ce premier match, on était quand même plutôt dominant et finalement on perd encore contre Toulouse. Et je pense que ça a amené un peu de négatif sur notre début de saison parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on joue moins bien que l'année précédente. Je pense qu'il nous a vraiment fait un peu mal à la tête, mais non, je pense qu'on avait envie de continuer et de regoûter à une finale et de faire les choses, je pense, différemment parce qu'on est vraiment passé à travers notre dernière finale de top 14. Autant la finale de Coupe d'Europe, il y a vraiment eu match. Et on peut avoir des regrets par rapport à celle-ci, autant celle de top 14. Waouh. Incroyable.
Ouais. Tu as connu Toulon, alors dans ta jeunesse, alors la Voulte, Toulon, Clermont. Qu'est-ce qui est différent en fait à La Rochelle? Est-ce que c'est le président Merlin? Est-ce que c'est le public? J'ai dit, c'est l'un des plus beaux publics de France. Vous jouez à guichet fermé depuis des années maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait à La Rochelle, l'air marin? C'est quoi le truc qui fait que
La
ça,
pluie.
cette montée en puissance, la pluie aussi, on l'a vu ce week-end aussi, oui.
Non, La Rochelle, finalement, c'est pas très grand. On pourrait penser que c'est une grande ville, mais pas vraiment. Bordeaux est une grande ville en comparaison. Donc, c'est plutôt familial. Le club était pas très structuré quand je suis arrivé. On était pas niveau amateur, mais c'était comparé à maintenant, c'était le jour et la nuit. Et je pense que c'est ça qui m'avait un peu plu. Cet aspect famille, puis le président Vincent Morin. Après, j'en ai pas connu d'autres, mais c'est une personne extraordinaire. En tant que président et en tant que personne, pour l'avoir côtoyé toutes ces années, je connais pas les autres, donc c'est difficile de comparer, mais de ce que je sais de lui, ouais, c'est très bien pour les joueurs du Stade Rochelet et pour l'équipe de La Rochelle de l'avoir.
Et si tu avais un message à faire passer à des mecs qui hésiteraient de signer à La Rochelle, tu t'en serais citerais quoi comme 3 arguments?
Trois arguments.
Ouais, même un ou deux, tu vois, les principaux par rapport à la vie, comme tu dis, voilà, la vie des à côté aussi, la vie de groupe aussi, parce qu'on sent que alors là, je vais faire le consultant de base de merde, mais qui va dire, le groupe vit bien, on a l'impression que le groupe vit
On essaie en tout cas. Non, on essaie de le faire vite. Tu sais comment ça se passe. Les saisons, ça se construit autour de ça, autour de cette vie de groupe. On peut ne pas être les meilleurs sur le terrain, les meilleurs au rugby, mais si ta vie de groupe et si tes mecs ils sont prêts à crever les uns pour les autres, tu peux faire quelque chose de très grand. Donc, c'est encore mieux quand tu as les deux. Une bonne vie de groupe et tu joues bien au rugby. Mais non, si quelqu'un veut venir signer à La Rochelle, je pense des flammes, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et tous nos supporters. Je pense que nos infrastructures aussi, elles sont incroyables. et le staff qu'on peut avoir à disposition à l'heure actuelle. Si tu as envie de progresser, hein, et si surtout vous avez envie de travailler avec moi, ce sera avec plaisir.
Le message est passé, je pense que je Ah, vous allez vous retrouver avec 300 CV sur la tronche grâce à ce podcast, parce qu'à mon avis, les mecs vont vouloir te suivre. Donc, tu as passé 10 ans à La Rochelle. Un souvenir en particulier qui te viendrait à l'esprit de ces 10 années passées, enfin 9 ans, presque 10, 10 années passées. Alors, on a parlé justement, donc tu n'as pas le droit du port de La Rochelle parce que c'est celui-là, d'accord. Oui, vas-y,
vas-y. C'était stratosphérique. J'avais jamais eu ça de ma vie et je me rappelle vraiment, je l'ai beaucoup dit quand je suis arrivé à La Rochelle, il y avait Benjamin Ferroux qui a voulu me montrer les images. Et je lui avais vraiment dit non, je veux pas que tu me montres, je veux vraiment le vivre moi-même. Et finalement, on l'a vécu deux ans après ce moment-là. Et ouais, c'était vraiment la folie intersidérale, quoi. J'avais jamais vu ça. Le port, enfin, c'était mais il y avait du monde partout. On a mis 1000 ans pour faire 50 mètres, mais tu vois que toute la ville était derrière nous. C'est vraiment. À l'époque, maintenant on a un peu le basket, mais à l'époque, le bassin de La Rochelle et tout ce qu'il y avait autour, on était le seul club de sport avec un niveau convenable. Donc, t'imagines le nombre de personnes qu'on pouvait drainer sur nos performances. C'était incroyable et ça l'est toujours aujourd'hui.
Ah, c'est fort quand même, parce que nous, pour l'anecdote, en fait, on remplit le Parc des Princes en 2005 et après, Max remplit le Stade de France 2006 jusqu'à ce qu'on connaît de l'histoire du stade. Mais t'imagines que nous, en 2003 et 2004, on est avec les Volvo cabriolets, on descend les Champs-Élysées et les gens nous arrêtent. En fait, on klaxonne, mais ils nous arrêtent pour dire « Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ? C'est un plateau de fromage, votre truc ?» Non, mais les gens nous arrêtaient. Il y avait 5 personnes autour qui ont reconnu.
Mais Paris, c'était...
Ouais, non, c'est compliqué, mais tu vois ce rapport au public. En fait, on l'a connu, mais c'était plus des spectateurs que des supporters, et c'est devenu des supporters au fur et à mesure.
Oui.
Et cette ferveur dont tu parles, on l'a connu après, mais c'est vrai que sur des petites villes qui vivent essentiellement rugby.
Mais c'est ça. Je crois que les semaines de finale, j'avais emmené mes enfants à l'école et à la crèche, tout était en jaune et noir. Les arbres étaient en jaune et noir, mais c'était jaune et noir de partout. Mais des trucs qui n'avaient rien à voir et ils avaient tout décoré. Je te dis, il y avait les arbres qui étaient en jaune et noir, c'était la folie. Et tu sentais que les gens, ils étaient impatients, ils étaient en fusion alors qu'on allait jouer la finale dans 5 jours, quoi. Et c'était vraiment des beaux moments à vivre.
Et parmi ces années, donc, tu as passé... 2 ans, on va dire, en bleu, sur ces 19 sélections, les matchs et aventures avec Guinoves et avec Jacques Brunel. Qu'est-ce que tu retiendrais ? Parce qu'on a discuté quand même pas mal avec des néo-anciens, ceux qui ne font plus partie de l'équipe de France aujourd'hui. Et ces 10 années, en fait, ont été un peu compliquées pour le rugby français. Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est... Je pense que la responsabilité est partagée par le nombre de matchs où on prenait l'homme en forme aussi. C'est ce qui a été dans les années 2000-2010 jusqu'à l'arrivée de Fabien Galthié. On parlera de l'équipe de France actuelle après. Mais toi, tu as quand même vécu le nœud, je dirais, des problématiques vécues par l'équipe de France. Et je voulais avoir un peu ton point de vue par rapport à ça. De tous ceux qui m'ont parlé de cette époque-là, il y a de très, très bons souvenirs en tant que joueur. Mais en tant que performance collective, qu'est-ce qui a pêché selon toi ?
Ouais, en tant que joueur, c'était génial. Moi, ça a vraiment été une parenthèse dorée de jouer vraiment au plus haut niveau que tu puisses jouer dans ton sport. Ça a été plutôt très, très intéressant en tant que personne et en tant que rugbyman. Après, oui, c'est sûr qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Je pense qu'on aurait pu enclencher quelque chose à un moment, mais on a perdu des matchs de très peu de points et je pense que si on avait eu ne serait-ce que la tournée d'automne à l'époque, on jouait Samoa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tu perds de quelques points contre l'Australie, alors que je me rappelle, dernière action, les enfants sont mêlés, l'arbitre prend pas ses responsabilités, donc on peut pas prendre les 3 points, on peut pas gagner. Après, on peut pas revenir sur les choses qui sont passées, mais je pense que si tu gagnes celui-là, après tu fais un énorme match contre les Blacks où tu perds de 4 points, alors qu'ils font une interception et une passe au pied, et donc ils marquent 14 points comme ça. Et je pense que vraiment que si à ce moment-là, la pièce, elle était tombée un peu plus de notre côté, on aurait pu enchaîner quelque chose de bien en termes de résultats, en termes de tout. Et je pense que là, on est tombé un peu dans le marasme de la défaite encourageante, comme ça a été beaucoup dit. Et après, c'était dur parce que moi, quand j'ai joué, on a fait tourner en Afrique du Sud. En fin de saison, la tournée d'été en Afrique du Sud, on est arrivé. Moi, j'avais joué, je sais pas, 30 matchs dans la saison, et tu vas jouer encore 3 fois l'Est africain qui. qui était prêt comme jamais. Donc, tu prends trois roosts. Après, on a fait une tournée en Nouvelle-Zélande. Tu prends trois roosts. C'était compliqué. C'était compliqué.
Ah, c'est Guillaume Guirado qui disait, bah, en fait, on a bouffé la tartine de merde. Et maintenant, la nouvelle génération qui arrive, en plus, génération dorée, avec un staff qui est installé, une volonté d'installer aussi les joueurs à leur poste avec une concurrence qui est quand même assez saine. Et puis, redorer un peu le blason de l'équipe de France. Cette transition, elle a été bien effectué par Fabien et aussi par son staff. Il a su s'entourer aussi de gens très compétents. Comment tu la vois, cette équipe de France? Et au-delà de ça, ça fait quand même 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que tu es dans le rugby pro. Tu as vu évoluer aussi les mentalités. Aujourd'hui, on arrive avec une équipe de France et avec des jeunes qui sont, je dirais, purement professionnels, qui sont acquis à la cause de leur club, acquis à la cause de, je pense à Dupont, à Ntamack et à ceux que tu peux connaître aussi à La Rochelle. Quelle a été justement, tu as vécu aussi cette transition de génération, parce que maintenant, tu es un ancien. Maintenant, aujourd'hui, tu es un ancien à 31 ans, mais comment tu as vécu cette évolution aussi des dernières années et l'évolution des mentalités aussi
L'évolution, elle a été incroyable parce que moi, à 22 ans, je signais mon premier contrat pro à La Rochelle. Je jouais en pro des deux et j'étais personne, tu vois. Et là, eux, à 22 ans, ils ont déjà 20 sélections, ils sont performants avec leur club. Je pense que toute cette nouvelle génération, elle arrive beaucoup, beaucoup plus tôt que ce que nous, on a pu faire, en tout cas pour ma part. Et ils sont performants et ils sont professionnels bien avant nous. Moi, à 22 ans, ou même à 19 ans, 20 ans, quand des mecs déjà jouent avec leur club et prétendent à l'équipe de France, moi, je me bourrais la gueule avec mes copains à Clermont-Ferrand, quoi. Donc, eux, à l'inverse, ils sont ultra performants et ils sont rugby. Et tu vois, cette différence, elle se sent. Tous ces jeunes qui arrivent à 22 ans, ils sont prêts pour le haut niveau, ils peuvent être performants. Et la différence, elle est là avec moi, ce que j'ai connu, notamment avec La Rochelle. Après, je ne sais pas pour les autres et comment ça s'est passé dans d'autres clubs, mais moi, c'est ce que j'ai vécu en tout cas.
Quel discours aujourd'hui, maintenant, en tant que. Sur ces 6 prochains mois, on va dire. Hein, c'est quel discours on peut avoir En plus, ça va être délicat parce que tu as été joueur jusqu'à la semaine dernière, on va dire. Quel discours on peut avoir aujourd'hui avec les joueurs aussi? Alors là, on va pas parler de génération, mais bon, les joueurs que tu vas pouvoir coacher en individuel, comme tu l'expliquais. Comment tu vois les choses avec, j'imagine avec philosophie, parce que tu vas apprendre beaucoup, tu vas passer de l'autre côté. Mais comment tu vois les choses avec et cette nouvelle génération et les joueurs avec qui tu jouais?
Je pense qu'il faut pas qu'ils oublient que ça reste quand même un sport plaisir. Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On peut avoir un plan de carrière. Je pense que les jeunes maintenant ont des plans de carrière. Ils veulent se pérenniser dans un club, prétendre avec la France, ces choses-là. Mais il faut pas oublier que ça reste quand même un jeu, que si tu prends pas de plaisir, ça reste compliqué. Et d'être performant sur le long terme dans le rugby, c'est très dur parce que notre championnat est très long et très dur. Et que pour durer vraiment dans notre sport, il faut être très très rigoureux, pardon. Et ces jeunes-là, il faut qu'ils en aient conscience. Mais je pense qu'ils sont ultra bien encadrés. Il faut pas aussi qu'ils soient déconnectés trop de la réalité. Mais chez nous, les jeunes à La Rochelle, ils sont plutôt bonnards et conscients de la chance qu'ils ont.
Qu'est-ce qui, toi, t'a fait garder un peu les pieds sur terre? Est-ce que c'est le fait, justement, d'être un peu en décalage par rapport au monde, je dirais, purement professionnel, le fait de ne pas avoir, justement, rêvé de faire carrière? Qu'est-ce qui t'a permis de garder les pieds sur terre? Tu l'as dit, hein, une notoriété qui a aussi poussé sur les 10 dernières années. Est-ce que c'est aussi la maturité? Est-ce que le fait d'avoir des à-côtés aussi qui permettent de ne pas tout focaliser sur des objectifs sportifs? Comment tu t'es vu, toi, évoluer en tant qu'homme de 22 ans à 31 ans aujourd'hui?
Bah, j'ai eu beaucoup d'amis, je me suis fait beaucoup d'amis en dehors du rugby, et même des gens qui connaissent rien de rugby, qui n'ont rien à foutre. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi aussi, parfois, j'avais rien à foutre du rugby. Donc, je pense qu'on se retrouvait sur ce point-là. Et ça me permettait de couper avec ce milieu-là, dans le sens où on est tout le temps ensemble. On fait des trucs de cohésion pour être ensemble. Donc, ça veut dire qu'en dehors des entraînements, on essaie de faire des choses pour qu'on soit ensemble. Le week-end, les trajets, je pense qu'on passe plus de temps ensemble que je passe avec ma femme et mes enfants. Tu fais le quota de temps. Je pense qu'on est presque plus souvent ensemble qu'avec notre famille. Et c'est important d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres gens pour pouvoir être épanoui dans sa vie. Après, il y en a qui n'en ressentent peut-être pas le besoin et qui sont très bien dans ce milieu-là. Mais moi, je pense que durant toute ma carrière, j'ai eu besoin de ça et de voir des choses différentes.
Et qu'est-ce qui anime un Kevin Gourdon aujourd'hui, hors, euh, hors rugby, sur les à côté, il y a des passions que tu peux partager.
Là, je vais réaliser deux rêves, je pense. Je vais apprendre le piano, parce que c'est un des rêves de ma vie. Et maintenant que je vais avoir un peu plus de temps, ce sera beaucoup plus facile. Et je vais retourner au ski, chose que je ne pouvais plus faire depuis que j'étais professionnel. Et ces deux choses-là, ouais, ça a vraiment, c'est vraiment deux de mes rêves là, à l'heure actuelle.
Et professionnellement, est-ce que selon ce qui alors c'est dur parce que tu viens d'en sortir et tu dois te poser la question, mais professionnellement, tu te verrais dans quoi? On en parlait tout à l'heure, tu parlais de bilan de compétences. C'est difficile d'arriver à se projeter sur l'après quand on a vécu 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 avec des mecs qui deviennent presque des frangins. C'est con, ou en tout cas des amis et une forte amitié. Le Titi du Sautoir le disait, hein, c'est l'un des seuls sports qui te garde un pied dans l'adolescence quand ça s'arrête à 30 ou 35 ans. Ouais, c'est de pouvoir se projeter sur autre chose. Certes, tu l'as expliqué, le bilan de compétences, en fait, t'amène sur peut-être du coaching, sur de la cohésion, sur de la transmission. Si c'était amené justement à voir, toi, sur les 6 prochains mois ou dans un an, te dire, bah, en fait, c'est pas fait pour toi. Je sais que la question, elle est délicate parce que déjà à 18 ans, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Elle est chiante, cette question, à 30 ans. Alors que t'es au milieu, en plus, j'ai toujours dit, hein, 30, 35 ans, c'est le moment où tous tes potes qui ne font pas de rugby et qui sont dans une vie normale sont dans une forme d'ascension sociale. Et toi, à ce moment-là, en fait, ben justement, par un pépin physique, par une fin de carrière normale à 35 ans, quelles sont mes compétences? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Comment toi, tu te projetterais, en fait, sur les années à venir, s'il n'y avait pas le rugby? Je sais qu'elle est hyper chiante, cette question, mais j'avais envie de te...
Non, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a quand même des projets avec ma femme qu'on va faire tous les deux pour justement... avoir grosso modo un métier, quoi. Après, est-ce que ce sera vraiment un métier? Je pense pas, mais en tout cas, oui, on a des projets qui vont se concrétiser maintenant qu'on a un petit peu plus de temps pour les faire.
Ce qui est difficile quand tu es dans un truc où tu te projettes du jour au lendemain sur le match d'après, quand tout s'arrête, c'est la complexité de pouvoir se projeter. D'où l'importance d'avoir des projets et d'être accompagné.
Moi, je suis hyper excité par rapport à cette nouvelle vie. Parce que ça va être super intéressant et c'est quand même, parce que là, oui, comme je te disais, on parle de 10 ans de professionnel, mais j'ai commencé à 5 ans. T'imagines, ça fait 25 ans que je fais du rugby, grosso modo, ouais, 15 ans à plus ou moins haut niveau. Et je trouve que c'est bien de pouvoir passer sur quelque chose de différent et voir un peu le monde, le vrai monde, le monde des gens normaux. Même si je suis quelqu'un de normal, mais on avait toujours eu des styles de vie qui étaient un peu en décalage avec le reste de la population.
Oui, c'est le rugby, pour moi, c'est mythologique. Hein. Alors nous, on avait fait les calendriers à l'époque, donc c'est sûr qu'on a foutu une image aussi de trucs un peu dionysiaques. Enfin là, c'est un peu mythologique tout ça, mais c'est vrai que ce que j'aime dans ton discours, en tout cas, et c'est l'image que j'avais de toi, c'est ce décalage. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est fait partie de ton éducation? Je parle vraiment du côté... tu l'as dit, tes potes sont tristes pour toi, mais toi, il y a cette excitation, il y a ce « on regarde sur la vie d'après », ce détachement en fait que tu as, qui pour moi est absolument génial et qui parfois n'est pas accepté dans le rugby, c'est-à-dire faut absolument que tu penses rugby, 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 les couilles, le cœur, les muscles, machin, je suis très caricatural, mais c'est un petit peu comme ça. Tu as cette image, en tout cas pour moi, je trouve que tu as cette image de mec un peu en décalage, qui vient de vivre une aventure et qui passe à autre chose. C'est une éducation, c'est le fait d'être… Je sais pas.
Après, j'ai toujours pensé. Moi, je suis parti assez tôt de chez moi. Quand je suis parti à Toulon, à l'internat, j'avais 17 ans. Et après, je n'ai plus vraiment retourné chez moi. Donc, j'ai vadrouillé. Je suis allé à Clermont pendant 4 ans. J'étais en même temps en Pôle France. Donc, je faisais Marcoussis, Clermont-Ferrand. Et j'ai pas mal bougé et un peu tout seul. Donc, tu as dû apprendre un peu par toi-même. Et je pense que c'est ça un peu qui a fait la différence aujourd'hui, de partir jeune, de faire un peu, pas son éducation tout seul, mais une partie de tout ça. Et voilà, et bah, maintenant j'en suis très content parce qu'au moins je ne suis pas dévasté comme peuvent l'être d'autres à la fin de leur carrière. Que j'espère pas vivre cette petite mort, comme on dit, ou du moins de la manière la plus douce possible. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans la vie, hormis le rugby. Je pense que c'est le plus important. Et ouais, je suis vraiment content de passer sur quelque chose de différent.
Ah, mais c'est génial parce qu'on a toujours tendance à avoir le son de cloche de cette petite mort qui peut être un peu tragique. on va dire. Je pense aux extrêmes qu'on a pu vivre encore ces derniers temps. J'ai une pensée pour Domi aussi, au-delà de Domi et d'autres mecs, hein, vraiment. Et là, on est. Mais ça fait du bien d'avoir aussi l'effet inverse, aussi de voir aussi que des reconversions aussi, un peu philosophiques en fait. Enfin, des choses peuvent bien se passer aussi. C'est-à-dire qu'on peut se projeter. Oui, ça peut être complexe, mais d'arriver à avoir ce genre de discours. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce podcast peut cartonner. Et je n'avais aucun doute là-dessus. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour t'avoir. C'est que c'est important d'entendre ce genre de discours. C'est important de se dire, OK, il y a cette vie-là, il y a autre chose aussi à côté pendant la carrière. Et sur l'après-carrière, il y a ces nouveaux challenges de se projeter dans une vie professionnelle et dans une vie aussi, même voilà, en famille, voilà, de pouvoir se projeter. Et que,
Ben oui,
mais.
mais tu te rends compte, ça fait 10 ans que je pars tous les week-ends, ou un week-end sur deux. Et pour la première fois, je vais pouvoir faire un truc le samedi avec des gens.
Oui, mais Kevin, ce genre de discours, tu l'entends rarement dans le rugby, parce que c'est putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Comment ça se passe? Mais c'est
Non,
pour ça
parce
que
que
c'est intéressant.
tu passes à côté de plein de choses quand même quand tu es au domaine professionnel. Tu passes à côté de plein de choses par rapport à tes enfants, par rapport à ta femme, par rapport à ta vie sociale en dehors du rugby. Et moi, je suis content de retrouver un peu de tout ça, un peu de ce que j'ai manqué, un peu de ce que j'ai perdu.
C'est génial, j'adore. Donc, la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année 2022? Quelque chose de positif, parce que de toute façon, ce podcast a été positif. Et je m'attendais pas à autre chose, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu voilà, ce côté triste. Mais en fait, on se rend compte que ouais, la tristesse, en fait, elle est partagée, certes, mais elle est surtout chez les autres. Donc, qu'est-ce qu'on
À
peut te
toi.
souhaiter sur 2000? Mais c'est génial.
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas. Je sais pas. J'essaie d'avoir un bon karma en termes général. Donc, on peut me souhaiter non une belle nouvelle aventure. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, le bonheur naît des projets. En l'occurrence, on a pas mal de projets avec ma femme. Donc, je pense que je vais être pas malheureux.
Ouais, génial, je trouve ça génial. Et moi, une chose, mais qui n'est pas du tout un conseil, j'ai fait une formation de coach mental il y a 10 ans. Et je t'imagine bien, non, et on se connaît très peu, hein, on vient de se connaître là, on a échangé 3 textos avant que tu arrives sur ce podcast. Mais ça t'irait bien une petite formation de coach parce que je trouve que tu as une sensibilité en fait de pouvoir travailler. Et on y vient au fur et à mesure, c'est très culturel, hein, français en France, parler de coaching mental, parler de philosophie, de philo et même de psychologie. On n'est pas faible, la psychologie, elle est souvent associée au féminin, donc à la faiblesse,
Ouais, mais
alors que c'est une
c'est quand
putain de
même
force.
c'est vraiment dommage parce que tous ceux qui performent et qui sont les meilleurs, ils ont des coachs mentaux. Tu prends Bestaven, il a gagné le Vendée Globe parce qu'il avait un coach mental. Tu prends tous les grands sportifs, ils ont des coachs qui soient mentaux ou autres. Tu peux pas au bout d'un moment si tu as envie d'être le meilleur, il faut faire ce que font les meilleurs. Mais non, mais là, moi, je vais faire une formation dans les neurosciences pour être neuropédagogue. C'est un truc qu'on a trouvé un peu dans mon bilan de compétences. Donc, c'est un peu comment vraiment mieux utiliser son cerveau pour optimiser ses performances. Et je pense que ça peut m'aider dans ce que je vais faire avec le Stade Rochelais.
Eh bien, super, mais je vais t'envoyer, on va conclure là-dessus, je vais t'envoyer les coordonnées de Benoît Guyot. C'est un mec qui a joué en
Ah ben oui,
Pro-Evo
mais
et je vais
je
te
le
le
connais,
connaître.
il
T'es
m'a
passé,
écrit.
bah, t'étais passé, Benoît.
Bien sûr, il a joué à
D'accord, bon, ben,
l'ancienne.
tu vois, voilà, bah, grave, grave, il y est passé, une fin de carrière aussi qui a été pas complexe, mais bon, on en a discuté là, il y a 2 semaines ensemble,
Oui,
et ça me fait penser
après
justement aux
son passage à La
neurosciences.
Rochelle avait été un peu compliqué. Hein.
Un peu
On avait pas mal de choses.
délicat, mais dans ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y avait peut-être un lien à faire avec Benoît Guyot, qui justement a étudié un petit peu tout ça, ça peut être intéressant. Donc, voilà, c'est une piste de réflexion pour toi, et si tu connais Benoît, ça peut être intéressant. En tout cas, Kevin, merci beaucoup, j'étais ravi de t'avoir dans ce podcast, c'était le dernier de l'année, et j'ai vraiment insisté pour t'avoir, parce que si tu n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu d'émission. Donc, merci d'avoir accepté, et ouais, non, mais c'est cool, merci d'avoir accepté l'invitation au milieu, à mon avis, de beaucoup de sollicitations médiatiques. Donc, et puis, à La Rochelle, je leur dis, hein, mais La Rochelle, faire une journée par mois où il faut être bien calé avec les journalistes, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, on est sorti des sentiers battus. Je me suis dit, le mec est à l'ancienne. Je vais pas passer par Romain Sazi qui m'a très naturellement donné ton numéro. Je t'ai eu et j'étais ravi de ce moment. Et ben, je vais te souhaiter, ouais, le meilleur pour la suite. Et je te laisse le mot de la fin. Voilà. Cadeau.
Eh ben, je souhaite une bonne année à tous les écouteurs qui vont écouter ce podcast.
Eh ben, super. Kevin, merci beaucoup. La suite au prochain épisode. Nous, on se retrouve l'année prochaine, c'est facile à dire, c'est dans 5 jours, avec sur le retour d'Arnaud Beurdelet. Ravi de t'avoir eu, Kevin. Une bonne
De
année
même.
à toi, à tes enfants, à ta femme. De très beaux projets à venir. Et puis, une bise particulière à ton fils qui a une belle voix et je pense qu'il peut. Le rugby va lui faire du bien. J'ai cru comprendre qu'il allait se mettre au rugby. Pour lui, c'est une aussi belle carrière que la tienne.
Il fera bien ce qu'il veut.
Ouais, mais carrément, je dis pareil à mon fils. Attends, j'ai mis mon fils au rugby au RCP 15. Il y a les entraîneurs qui m'ont reconnu et tout. Ah, venez entraîner avec nous. J'ai dit, les gars, je ne savais pas faire une passe. Franchement, ne venez pas me voir, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, c'est son histoire. Mon père a été très présent, donc je serai là s'il faut, mais je n'entraîne pas. J'ai jamais su plaquer un mec, donc laissez-moi faire mon footing. Mon fils joue au rugby. Voilà, donc on est sur la même longueur d'onde pour nos gamins, c'est cool. Au plaisir, Kevin, à très bientôt et bonne continuation à toi.
Ça marche, à plus.